Stéphane Marchetti, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre BD chez Dupuis, collection Air Libre, Henri de Turenne sur le front de Corée. Vous êtes le scénariste et les dessins sont signés Raphaël Ortiz. Le prix dont on parle, qui a un prix prestigieux, c'est l'Albert Londres, qui est attribué à un jeune reporter qui fut décerné pour la première fois en 1933. Et Henri de Turenne l'a reçu en 1951. Et Henri est également l'initiateur du prix Albert Londres de l'audiovisuel, prix que vous avez reçu en 2008 pour Rafa, chronique d'une ville de la bande de Gaza. On peut dire finalement que la boucle est bouclée.
Oui, c'est vrai que c'était un projet que j'avais en tête depuis assez longtemps. J'avais vu le travail qu'avait fait Jean-David Morvan avec les photographes de l'agence Magnum. Et en même temps, en parallèle, je cherchais à écrire un peu en fiction mon Tintin à moi. Et puis ce que je produisais me plaisait pas du tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais la solution, elle est là, elle est devant tes yeux. C'est lauréats et toutes les lauréates du prix Albert Londres. C'est tous des Tintins voilà, du passé, des Tintins modernes en chair, en os. Donc voilà, il y a la matière première pour voilà, raconter un petit peu le monde, cette histoire du XXe siècle, un peu avec des regards voilà, singuliers, exigeants. Et en même temps aussi, ça permet de raconter voilà, le métier de journaliste et son évolution. Donc c'est ça qui est un peu à la base du projet.
Alors, ce n'est pas la seule similitude de vos destins, puisque Henri a plusieurs documentaires à son actif, et il a franchi le pas de la fiction avec Alsacien ou les deux Mathilde en 97. Et vous, c'est La Tête Froide, que vous aviez présentée chez Dominique Besnier à Angoulême en 2023, qui était sorti en janvier 2024. Est-ce que la fiction, c'est une suite logique ?
Étrangement, la fiction était là avant le documentaire.
Ah ouais.
Voilà, c'est ma rencontre avec Alexis Monchauvet, qui j'ai fait tous mes documentaires pendant plus de 15 ans, qui m'a fait rentrer dans le documentaire. Mais non, petit, je voulais plutôt être Spielberg ou Scorsese ou De Palma, et lui voulait être Robert Capa. Et comme j'avais pas de moyens d'accès, et voilà, et du coup, j'ai décidé de. C'était un accident, un heureux accident, parce que je pense que ça fait toutes ces années de documentaire, de journalisme, on fait la personne que je suis aujourd'hui, et je suis très content de l'avoir fait. Et voilà, mais donc ça me semblait revenir à la fiction à 40 ans, j'avais un peu effectivement bouclé la chose.
Alors, expliquez-nous un petit peu le style de l'école pâtée de film historique.
Le style, c'est un peu ce qui était intéressant justement avec Henri, c'est que c'est quelqu'un qui vient de la presse écrite et qui est passé à l'audiovisuel. Voilà, il a senti très vite justement d'ailleurs dans la BD il dit à un moment donné l'arrivée de la télévision est un peu le cercueil de la presse écrite, et il a senti ça très vite. Et c'est vrai qu'il a instauré assez rapidement via une série de la télévision qui est assez emblématique, qui s'appelle Les Grandes Batailles, et après Les Grandes Batailles du passé, c'est devenu un peu le père du documentaire historique, voilà. C'est lui, sans ces documentaires-là, il n'y aurait pas aujourd'hui des séries telles qu'on peut connaître, Apocalypse par exemple. Voilà, et il faisait un énorme travail d'archives, il mettait très souvent en valeur ses archivistes, qui faisaient vraiment un boulot assez hallucinant. Il a pu avoir des témoignages exclusifs, comme le général américain qui pilotait l'avion, qui a bombardé, qui a lancé la bombe sur Hiroshima. Voilà, et après, il a pris en main dans cette école justement Pathé, qui était Pathé à l'époque était dans le 18e à Paris avec ses locaux, et là-bas c'est lui qui prenait vraiment en main le récit, et qui du coup derrière mettait des témoignages, alors que bien souvent l'école anglo-saxonne se déployer sur la longueur ces grandes interviews. Non, lui a rapidement compris qu'il fallait prendre le récit en main.
Cette guerre de Corée dont on parle, donc de 1950 à 1953, ça en fait finalement la marche d'Echternach, un pas en avant, deux pas en arrière.
Bah, déjà, c'est une guerre qui n'est pas du tout connue. qui est vraiment oubliée, alors qu'elle a été meurtrière, parce qu'on est sur entre 2 et 3 millions de morts civiles. Elle est coincée entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Et c'est vrai que ça a été une guerre autour du 38e parallèle, où d'un seul coup, le Nord est descendu en quelques semaines après le début du conflit. Ils étaient dans 90% de la péninsule. Les Américains ont réussi à débarquer. Du coup, ils sont remontés jusqu'en Mandchourie. Les Chinois sont arrivés, ils sont redescendus. Enfin voilà, c'était une guerre, tout ça pour se terminer 3 ans plus tard, exactement au même point. Voilà, c'est un peu une guerre pour rien, comme disaient beaucoup de journalistes et beaucoup de spécialistes de cette guerre.
On peut dire que l'histoire se répète finalement quand on voit Gaza actuellement, Liban et même en Corée avec Kim Jong-un, c'est toujours une répétition.
Oui, l'histoire ne fait que se répéter, souvent aussi comme la création, où j'ai l'impression qu'on parle tout le temps des mêmes... finalement, on parle tous souvent d'un seul sujet qu'on creuse sans fin. Là, c'est pareil, malheureusement, avec ces conflits. Une fois que la germe du conflit a été posée, c'est rare les guerres qui se terminent bien, entre guillemets. Elles ont souvent plusieurs, comme pour un séisme, plusieurs répercussions voilà, dans l'histoire.
En parlant justement de Kim Jong-un et de sa menace nucléaire, il y a une autre menace en Corée, c'était l'arme bactériologique. Quel est votre point de vue là-dedans? Est-ce qu'elle a ou pas été utilisée? Parce qu'il y a une énigme, enfin j'ai une interrogation.
L'énigme existe encore aujourd'hui. Même si les Russes ont fini du bout des lèvres à admettre que c'était peut-être une infox, comme quoi déjà il y en avait sans doute à l'époque. Mais non, ils avaient accusé les Américains d'avoir lancé des insectes avec des maladies au-dessus de la Corée du Nord, mais ça fait l'objet encore de spéculations et d'énigmes aujourd'hui. Ouais. Et même si bon, on pense que ça n'a pas existé, mais la solution, il n'y a pas de vérité sur le sujet, je pense.
Il y a quelques semaines est sorti en salle Lee, sur la reporter photographe Lee Miller. Et est-ce qu'elle fait partie de la famille des grands reporters?
Oh bah, Lee Miller a complètement sa place dans la famille des grandes reporters féminines, au même titre que Marjorie Higgins qu'on peut croiser dans
que vous mentionnez d'ailleurs.
Voilà, qui bien sûr elle fait partie, comme ces nombreuses femmes un peu avant.
Vu,
il y a eu André
Violis.
Ah, je ne connais pas Marcel Poirier.
Qui est aussi, aussi peu connue. Je crois qu'elle était à l'AFP, mais mise de côté.
Il y a eu aussi la grande reporter André Violis, que même Albert Londres disait que c'était la plus talentueuse d'entre tous et toutes.
Et c'est dû à quoi, le fait qu'il y ait peu de femmes? C'est l'armée qui leur refusait les accès ou c'est les femmes qui n'étaient pas tentées par ce genre de profession?
Là, on peut voir dans la bande dessinée que Marguerite Higgins, qui est justement donc correspondante américaine, elle est sur le front, tout le monde salue son courage, son professionnalisme, et l'armée américaine décrète que la place d'une femme n'est pas sur un conflit, donc il faut les rapatrier. Donc elle est rapatriée, elle fait un grand pas possible avec les médias pour finalement que MacArthur dise non, mais elle a toute sa place sur le front. Et il y a toujours eu des femmes grands reporters que l'histoire a sans doute un peu oublié et aujourd'hui remet un peu en avant. Et encore, et aujourd'hui il y a vraiment une génération de il y a une génération de femmes reporters qui sont de plus en plus nombreuses à aller sur le terrain. Ça c'est quelque chose qu'on voit tout le temps.
Magnum, AFP et Paris Match là-dedans, finalement le poids des mots, les chocs des photos, c'est aussi de la même veine ou c'est vraiment le sensationnalisme?
Il y a eu des... alors, je connais pas assez l'histoire de Paris Match, mais il y a toujours eu une espèce, je pense, de dualité. Effectivement, le poids des... le poids des mots, le choc des photos, avec des fois voilà de la recherche du scoop, mais il y a toujours eu aussi des vraies enquêtes de fond et du journalisme de terrain. Voilà, j'ai des souvenirs d'avoir des reportages sur Kadhafi, enfin, ou des choses comme ça. Ouais.
La confraternité, est-ce que c'est un vain mot ou... Parce qu'on a l'impression maintenant, en tout cas, qu'on est plus à la chasse du scoop. Que réellement ce côté de confraternité, comme vous le démontrez à l'époque. Et il y a ce côté dandy qu'on n'a peut-être plus nécessairement maintenant.
Cette concurrence, cette chasse au scoop, effectivement, être le premier à sortir une info, elle a toujours existé. Après, quand vous êtes à 1000, 5000 ou 10 000 kilomètres de chez vous pendant des semaines, des mois, forcément, il y a des liens qui se créent entre journalistes et qui forment une confraternité. Voilà, une confraternité, ça c'est évident. Henri disait, la guerre fait ressortir ce qu'il y a de pire et de meilleur chez l'être humain. Là, je pense qu'on peut être dans ce cas de meilleur, parce que ça crée vraiment des relations qui sont très fortes. On le voit au travers justement de ces trois journalistes de l'AFP, Henri de Turenne, Philippe Dodi et Jean-Marie de Prémonville, qui deviennent vraiment vraiment des amis. Il y en a même un qui décède sur place. Ouais, les trois mousquetaires français, comme les appelaient les journalistes américains. Et c'est Philippe Dodi, l'un des trois, qui justement, la mort de Jean-Marie de Prémonville, va tricher pour que le corps de son ami soit rapatrié en France, que
comme vous l'expliquez,
voilà, la loi américaine faisait que normalement les gens qui mouraient sur un terrain de guerre soient enterrés là-bas.
Vous parlez aussi dans votre ouvrage des faux reporters, ceux qui restent dans leur palace à raconter la guerre, et sur les 271 arrivés au Japon, seule une soixantaine va aller en Corée. Ça a toujours existé, je suppose. Hein.
Oui, mais c'est aussi un peu ça. Enfin, nous, ce qui nous intéressait, c'est que aujourd'hui, la profession de journaliste est remise en cause assez fréquemment et de façon assez violente. La plupart des gens sont incapables de faire la différence entre une information et une désinformation. On menace, on tue des journalistes juste parce qu'ils font leur métier. Donc, ça me semblait assez évident et ça nous semblait vital de remettre sur le devant de la scène qu'est-ce qu'est la réalité d'un reporter sur le terrain. Voilà. C'est quoi ce que le cœur de son métier, c'est d'aller sur le terrain et avec les risques que ça peut comprendre. Voilà.
Vous parliez du décès des reporters et comme vous dites dans l'ouvrage, aux assurances sociales, leur dossier est classé sous la rubrique « Accident du travail ». J'ai vu que pour la Deuxième Guerre mondiale, on avait dénombré 68 morts de correspondants, alors qu'en juin, Le Monde parlait de 108 à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Alors je me suis demandé si c'était parce que les journalistes et les reporters étaient plus nombreux, s'ils étaient beaucoup plus téméraires, ou est-ce que c'est parce que les guerres étaient plus sanguinaires ?
Je pense qu'ils sont à la fois de plus en plus nombreux et que les armes utilisées sont souvent beaucoup plus violentes et font de plus en plus de dégâts. Et là, en l'occurrence, puisque vous parlez de Gaza, il n'y a pas d'échappatoire. On est dans un endroit fermé, donc c'est sûr que malheureusement, le chiffre de morts de journalistes augmente beaucoup plus vite. Après, je crois que ces reporters de guerre ont toujours été conscients des risques. C'est Saint-Exupéry qui disait que la... Saint-Exupéry qui disait que pendant une guerre, justement, c'était pas le risque qui était important, mais c'était le... Je suis en train de m'embrouiller. Vous n'allez pas tout. Ça, c'est pas en direct.
Ouais. Ah, bon.
Je ne sais plus ce qu'il disait du coup. Enfin, j'ai plus la phrase en tête. Mais voilà. Enfin, en tout cas, qu'il y avait cette prise de risque qui était toujours présente chez les journalistes avec cette idée que voilà, ils peuvent mourir sur le terrain.
Vous parlez des fake news, et on en parle surtout beaucoup maintenant. Ça a toujours existé.
La propagande est vieille comme le vieille comme le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils qui numériques, elle a tendance à proliférer et qu'on a de plus en plus besoin de gens pour faire de la désinformation, même si pour faire de, enfin, pour lutter justement contre la désinformation, même si on a un peu l'impression que c'est essayer de vider un océan à la petite cuillère.
Dans vos remerciements à la fin de l'ouvrage. Vous citez Jean-David Morvan, on l'a signalé tout à l'heure, qui est d'ailleurs crédité comme co-directeur de l'ouvrage. Quelle fut son implication dans cette BD?
On est tous les deux, pour le coup, directeur d'ouvrage avec Jean-David, et c'est nous qui avons un petit peu pensé le cadre de ces ouvrages. On voulait à la fois, du coup, qu'il y ait une couverture concrète, une couverture médiatique, par le prisme de ces articles qui ont été primés par le prix Albert Londres, et en même temps qu'on ait une incarnation très forte du journaliste pour voir un petit peu ce qu'on ne voit jamais, c'est comment l'information se fabrique et qu'est-ce que c'est que la réalité justement du terrain pour un journaliste. Donc ça a été à la fois de construire un petit peu ce cadre et de trouver après sur cette série d'ouvrages, puisqu'il y en a cinq qui ont été lancés aujourd'hui, et trouver un petit peu les bons duos scénaristes dessinateurs qui chacun vont pouvoir s'approprier les sujets qui vont être traités. On voulait avant tout que ça soit des livres d'auteurs. Donc nous, c'est un peu on chapeaute un petit peu tout ça.
Alors, pour parler de Morvan, il a déjà travaillé avec Raphaël à plusieurs reprises. Et Raphaël, comment avez-vous travaillé avec lui en amont? Est-ce que vous avez fait des recherches communes ou chacun allait de son côté et vous remettiez les résultats dans le pot commun?
J'ai fait une grosse partie du travail de recherche, parce que c'est vrai que même moi, quand on a dit guerre de Corée, j'ai dit bon, ok, guerre de Corée. Donc, je savais que le Nord avait envahi le Sud, mais ça n'allait pas bien au-delà de ça. Donc j'ai fait un gros boulot de documentation, et en plus j'ai eu la chance que la veuve d'Henri Turenne me confie ses mémoires. Donc du coup c'était vraiment d'une valeur inestimable, et j'ai pu comme ça écrire le scénario et fournir des références à Raphaël. Plus après, lui, il a toujours fait un petit appoint de documentation, parce que c'est vrai que quand on est sur des soldats, faut faire attention aux casques, aux habits, aux tanks, ce genre de choses, sinon il y a des gens qui vous rappellent mais non, cette arme n'était utilisée qu'à partir du mois de mai 1951, alors vous la situez en février 51. Donc on voulait éviter ça, être le plus proche possible de la réalité.
Stéphane, un grand merci. Donc on rappelle Henri Turenne, sur le front de Corée, paru aux éditions Dupuis Air Libre. Merci
à vous.